La grâce surabondant, vous aurez donc droit à une double prédication ce matin, mais sur un même texte. Avec Marc, nous allons en quelque sorte prendre le texte biblique qui est la finale de l'évangile selon Matthieu en tenaille, et essayer de débusquer cette parole de vie. Il vous appartiendra ensuite de vous en saisir. Donc, finale de l'évangile selon Matthieu. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. » C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières. Et au cantique 144, chantons les trois strophes qui chantent Pâques. Levons-nous pour chanter Jésus sorti de la tombe. Éternel, notre Dieu, avec ton Église universelle qui est aujourd'hui dans l'allégresse, parmi tous les peuples et en dépit de l'ombre de la mort qui ne cesse de planer, nous te louons. Nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'avec cette parole que nous avons écoutée, nous éprouvions cette puissance vivifiante et que par cet esprit que tu dispenses au milieu de chacun, nous soyons nous-mêmes réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, de cette fin d'évangile, je vais surtout retenir et m'attacher à cet épisode qui met en scène les gardes et les chefs des prêtres. Cette fin d'évangile, vue sous cet angle, montre un travail de manipulation organisé par les chefs des prêtres. Tout y est. La corruption, les éléments de langage, l'intimidation, il ne manque quasiment que les époux Turanges. Objectif, faire un contre-feu à ce qui sera appelé Pâques. Faire sortir cette religion naissante de l'espace public en détruisant sa réputation. Et l'évangile selon Matthieu se termine quasiment sur le récit de cette manipulation qui évidemment a une certaine saveur 2000 ans après, en ce jour où il est encore question de Pâques, et cette fois à travers le monde, de manière très positive. Nous voyons à quel point ce complot a échoué. Le moins que nous puissions dire, c'est que la tentative d'étouffer Pâques a largement échoué, la tentative de liquider le christianisme naissant a échoué. Et cet échec tient en un mot, malentendu. Ce récit met en évidence un énorme malentendu qu'à vrai dire le temps n'a toujours pas vraiment dissipé en dépit des efforts produits par les évangélistes. Ce malentendu tient à ce que l'on entend par religion. Les chefs des prêtres de l'époque de Jésus semblent avoir confondu la religion avec la religiosité qui n'en est que l'écume, qui n'est que la trace que laisse la spiritualité sur son passage. Voyez comme les chefs des prêtres portent toute leur attention sur le corps de Jésus. Voyez comme les opposants à la foi chrétienne ont ainsi manifesté une vision du monde qui n'arrive pas à dépasser la seule dimension matérielle. Pour eux, c'est la présence ou l'absence du corps qui est déterminante. Pour eux, ce sont les signes visibles qui comptent. Ces chefs des prêtres font une lecture littérale de la vie. Pour ma part, je n'ai pas besoin que le tombeau soit matériellement vide pour croire en la résurrection. Je n'ai pas besoin que le corps de Jésus ne soit plus dans un tombeau pour adhérer de toute ma personne à ce désir de vivre incarné par ce Jésus crucifié. Un désir infini qui ne pourra jamais croupir au fond d'un tombeau. D'autant qu'il est déjà à l'œuvre dès ce matin de Pâques, en cette première matinée pascale. Alors, quelle erreur finalement ? Quelle erreur de penser que le christianisme ne puisse s'exprimer que dans la matérialité ? Quelle erreur de penser que la religion, d'ailleurs, est enfermée dans des objets, peut-être dans un vocabulaire, dans des signes particuliers, alors que la religion véritable, voltige de signe en signe, caressant celui-ci, stimulant celui-là, repoussant cet autre, donnant sens à ce qui fait notre monde et donnant vie à tout ce qui le constitue. La religion n'est pas un catalogue de choses. La religion, c'est cet effort dynamique, cet élan de vie, cette chorégraphie magnifique. On peut tuer les corps, on peut détruire les lieux, on peut même brûler les livres. Cela n'enterre pas l'appel divin à l'extase humaine. Ce qui préoccupe les chefs des prêtres, c'est le visible, c'est le palpable. En fait, ces chefs sont obsédés par ce qu'il convient d'appeler des reliques. Ils sont obsédés par les objets que l'on peut exhiber et qui peut-être donnent le sentiment du pouvoir, comme autant de trophées, comme autant de galons dont on peut se prévaloir pour fonder son autorité. Souvenons-nous qu'ils ont condamné Jésus au prétexte qu'il avait remis en cause la pérennité du temple physique. Lui parlait d'un temple spirituel, mais ils n'ont pas voulu en entendre parler. Et c'est ainsi que ces chefs passent à côté de la véritable puissance à l'œuvre à ce moment-là. Eux misent tout sur la matérialité, sur le corps qu'ils aimeraient garder jalousement caché, enfermé, sous-scellé. Ils ignorent tout de la vérité qui se répand malgré la mort de Jésus et qui est capable de faire se lever à nouveau des personnes effondrées par le chagrin, des personnes accablées par leurs conditions de vie, des personnes qu'on essaie d'humilier, qu'on essaie de faire disparaître. Ils ignorent quelle est la véritable puissance à l'œuvre dans le monde. Ils sont arc-boutés sur un pouvoir qui n'a en mire que ce qui est visible, palpable. Ils ignorent tout de la vérité qui gagne peu à peu les cœurs et qui transcende infiniment les choses, les situations, les institutions. Ils ignorent tout de la vraie religion, en vrai dire. Ils ignorent tout de cette vraie religion qui ne cherche pas à régenter, qui ne recherche pas le pouvoir, qui n'utilise pas la violence, ni les rapports de pouvoir, ni les démonstrations de force pour faire peur, pour terroriser, pour asservir, pour soumettre. Ils ignorent tout de la vérité de la religion qui est tout à l'opposé une puissance d'amour, d'encouragement, de libération. La véritable religion qui sublime les êtres au lieu de les défigurer, qui métamorphose les situations au lieu de les réduire, qui transfigure le quotidien au lieu de le supprimer. Oui, ici, il y a des chefs qui veulent supprimer, ou en tous les cas, manipuler le peuple. Ils veulent en tout cas endormir les consciences en leur racontant une nouvelle histoire, une belle histoire, mais une histoire fausse. Mais voilà, résurrection. Résurrection, c'est un mot qui veut dire éveil. Et Jésus a éveillé les consciences. Il a éveillé les consciences de celles et ceux qu'il a rencontrés. Il a fait en sorte que les gens soient désormais capables de discerner par eux-mêmes, sans avoir besoin de se reposer sur un autre, sans avoir besoin d'un pouvoir annexe, capable de discerner les ambitions personnelles du bien commun. Oui, il y a des chefs qui veulent manipuler le peuple. Ils veulent écraser les âmes qui, peut-être, risqueraient de ne pas les reconduire dans leurs fonctions. Mais voilà, résurrection. Résurrection qui veut dire aussi lever et relever. Et la relève est déjà là au matin de Pâques. La relève, elle est assurée par ces femmes. Et puis, quelques instants plus tard, elle sera assurée par ces hommes qui vont se rendre en Galilée, c'est-à-dire non pas dans le lieu du pouvoir, mais dans le lieu de la puissance, là où Jésus a exercé son ministère, là où il a manifesté sa puissance de vie, là où il a relevé les personnes, là où il a réveillé les consciences. C'est l'idée même d'humanité qui est ici ressuscitée contre cette tentation, contre cette tentative d'endormir le monde. Ici, le récit montre qu'il y a toujours des gens à l'œuvre pour essayer d'anesthésier. Mais ce texte montre aussi que cette anesthésie ne peut rien contre cette puissance vivifiante qui a été inaugurée bien avant Pâques. Alors moi, je les trouve assez pathétiques, finalement, ces chefs qui s'évertuent à lutter contre les signes extérieurs de religion, contre la religiosité qui sera toujours en retard de quelques années sur la véritable foi, la foi vivante qui, elle, est en train déjà de faire venir au monde de nouveaux élans de solidarité, qui est déjà en train de mettre en évidence de nouveaux défis à relever, qui est en train déjà de révéler de nouvelles ressources. La matérialité n'est pas ce qui préoccupe les évangélistes. Voyez ce qu'ils disent du corps de Jésus. Voyez comme les évangélistes font passer le ressuscité à travers la roche dans l'évangile de Matthieu, à travers les portes dans l'évangile selon Jean. Luc donne un nouveau visage au ressuscité que les disciples ne reconnaîtront pas. Et Jean à nouveau, une nouvelle silhouette que même Marie-Madeleine ne reconnaîtra pas. Si le tombeau est vide, ce n'est peut-être pas du corps de Jésus, mais du Jésus crucifié, de cette trajectoire de vie qui a été une incarnation absolue de l'espérance de Dieu. Non, le Jésus crucifié, celui qui a prêché l'amour inconditionnel, celui qui est allé rencontrer celles et ceux qui étaient perdus, celui qui est passé par-delà tous les clivages, eh bien ce Jésus crucifié n'est pas là. Celui qui a embrasé la vie de celles et ceux qu'il a rencontrés, celui qui a soigné les identités blessées, celui qui a restauré l'espérance déçue, celui-là n'est pas dans le tombeau. Christ est ressuscité. Ressuscité en ce sens que la vie, selon l'espérance de Dieu, n'est pas morte à Jérusalem avec Jésus. Sa parole, qui a été largement semée, aussi bien sur les chemins rocailleux que dans les buissons épineux et même dans la bonne terre, eh bien, cette semence commence déjà à germer au matin de Pâques. Et aujourd'hui encore, partout, ici même et au loin. Malgré ceux qui voudraient faire taire la voix de la vie, cette parole continue à s'incarner et à susciter ce désir impérieux de vivre malgré tout. Amen.
Dans son témoignage sur la résurrection, Matthieu nous donne des détails que les autres évangiles ne nous donnent pas. Et donc il est le seul à nous raconter l'ouverture du tombeau par un ange spectaculaire, clignotant de lumière, et il le fait très en détail. Comment cela se fait-il? Pourtant Matthieu n'a pas assisté à cet événement. Et il a eu les mêmes informations que les autres disciples par la bouche de ces deux Marie, qui étaient les seules personnes présentes, et qui sont venues le raconter. Alors pourquoi est-ce que les deux Marie viennent voir finalement le tombeau de Jésus? Matthieu n'en parle pas, mais à leur attitude, on peut peut-être le deviner quand elles saisissent les pieds de Jésus et l'adorent. Cela montre que leur espoir, finalement, était d'être tout le temps accroché à leur Jésus. Nous savons tous que la mort finit par nous emporter ou par nous enlever ceux que nous aimons. Et donc cet espoir d'avoir toujours Jésus accroché dans leurs bras était un peu irréfléchi. Mais la mort de Jésus sur la croix a rattrapé finalement par la réalité cette femme, ces femmes, et leur rabbi adoré n'est plus. Elles sont passées donc de l'espoir d'avoir toujours Jésus avec elles au désespoir, à la révolte et à la peur. Peu après, pourtant, elles reviennent devant les autres disciples en témoignant non pas d'un espoir nouveau ou d'un retour de leur espoir passé, mais elles témoignent en fait de la réalisation de cet espoir qui semblait pourtant déraisonnable. Ce qu'elles vivent alors est bien décrit dans la conclusion de l'évangile selon Matthieu, où Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas seulement pour quelques apparitions, mais sans fin et quotidiennement, au jour le jour, dans notre vie quotidienne. » Il s'est donc passé quelque chose qui les a changés pour que la réalisation de leur espoir deviennent possibles. Manifestement, Matthieu les a suivis dans ce changement puisqu'il s'approprie finalement la démarche de ces deux maris dans un récit personnel. Alors, quand il raconte la résurrection, ce passage que nous avons entendu, il ne parle pas à la première personne comme si lui-même, finalement, avait été témoin de cet ange, mais il parle en racontant l'histoire des deux maris. Et il rend ainsi hommage finalement à ces maris qui l'ont inspiré. Mais il place son témoignage personnel dans un récit qui est enchâssé dans l'histoire, le témoignage de ces femmes. Et ce récit enchâssé, c'est les aventures de l'ange, nous disant en fait la réalisation de son propre espoir, celui de Matthieu, l'espoir qu'il a en Christ. Et peut-être que ça peut nous donner envie à notre tour d'essayer d'avoir notre propre histoire et de l'inclure donc dans le récit de la résurrection et d'en être un témoin à notre tour. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Matthieu? Matthieu est un converti que l'on voit se décrire lui-même au chapitre 9 de son évangile, alors il ne le dit pas non plus à la première personne, mais il raconte un Matthieu qui était un fonctionnaire corrompu, et puis la rencontre avec Jésus est comme un électrochoc qui va lui faire prendre une route nouvelle, finalement, à la suite de Jésus. Mais il a pu rester à Matthieu, je pense, la honte de son passé parmi les 12 apôtres. Il était un peu frappé de cette tâche d'arriver au milieu avec un lourd passé. Dans sa relation avec Jésus, Matthieu a d'autres blessures. Il a manqué rien de moins que la totalité des trois théophanies, dit-on en termes techniques, c'est-à-dire ces épisodes où Dieu se manifeste directement pour désigner Jésus comme étant essentiel, une voix, ou bien même cette présence de Dieu qui est là. Alors Matthieu n'était donc pas là pour entendre la voix de Dieu lors du baptême de Jésus. Il était encore en train de faire le fonctionnaire corrompu. Il n'était pas là non plus sur la montagne pour cette expérience mystique que Pierre, Jacques et Jean partagent avec Jésus. Et il voit Jésus transfiguré et encore la voix de Dieu formidable disant d'écouter Jésus. Et puis Matthieu a manqué aussi la résurrection, bon les autres apôtres aussi, mais les deux Marie, elles, ont suivi Jésus jusque-là et elles vont sentir le monde trembler, s'ébranler. Matthieu est comme nous finalement quand nous avons perdu un être cher et que la mort rend impossible d'espérer rattraper les occasions manquées que nous avons eues avec cette personne qui est disparue. Et cela peut être aussi un désespoir, cette impossibilité de rattraper. Matthieu va être frappé par le témoignage des deux Marie. Il est touché par cette traversée victorieuse, finalement, de leur propre désespoir pour aller au-delà même de l'espoir jusqu'à la réalisation de leur espoir, qui était d'être tout le temps avec le Christ. Comme dans son évangile, Jean raconte ses propres tentatives pour suivre les deux Marie dans l'expérience de la résurrection. Matthieu, manifestement, les a suivis aussi à sa façon. À son tour, il va donc trouver le truc, pourrais-je dire. Mais peut-être qu'on devrait mieux dire que c'est plutôt le truc qu'il a trouvé. Le truc, c'est Dieu. Matthieu raconte donc cette résurrection qu'il a expérimentée à son tour avec ce récit d'ange clignotant de lumière. Et puis l'histoire de pieds de Jésus qui peuvent être saisis. Et puis la joyeuse salutation de Jésus qui va pas venir par la suite. Les Juifs de l'époque, ils parlaient souvent d'ange pour dire l'expérience de la présence de Dieu. En français courant, en fait, aujourd'hui, on dirait simplement une expérience spirituelle ou une expérience de prière. C'est donc dans la prière, en fait, que Matthieu confie son désespoir, tout ce qui le déçoit en lui-même, son passé chargé qu'il n'arrive peut-être pas à se pardonner. Et puis aussi cette fête d'avoir raté des occasions, des épisodes où Dieu faisait de Jésus vraiment le Christ pour nous, laissant finalement à Matthieu une foi en Jésus de bien moindre portée. Un Jésus qui cesse trop vite finalement d'apporter quelque chose, un Jésus qui meurt. Donc Matthieu confie cela dans la prière et il va voir lui aussi son désespoir transformé, traversé et son espoir réalisé. Le tremblement de terre rappelle celui qui a eu lieu à la crucifixion du Christ et ce tremblement de terre, il en témoigne. Et c'est le désespoir de Matthieu en fait, c'est son monde ancien, son monde douloureux qui se fendille comme une promesse de monde nouveau en fait. Le fait que l'ange roule la pierre et s'asseye dessus est plus énigmatique. Quelle importance peut voir Matthieu dans le fait que l'ange s'asseye? Alors j'y vois une allusion au passage de son évangile où Matthieu se décrit lui-même dans un souvenir finalement qui est assez saisissant. Il se décrit au moment où il est assis à son bureau à faire le fonctionnaire corrompu en train de voler les autres. Et finalement, ce souvenir tout à fait autobiographique, à mon avis, parce que sinon je ne vois pas l'intérêt que ça pourrait avoir dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, c'est le souvenir de cette brûlure cuisante, du contraste avec Jésus qui, au contraire, de profiter pour lui-même, donne sa vie pour les autres. Et donc l'ange qui s'assied sur la pierre roulée du tombeau ouvert et comme le pardon de Dieu qui le rejoint finalement sur ce banc, sur cette chaise, où il était assis pour faire le mal. Pour Matthieu, le remords, le dégoût de lui-même l'enfermait comme dans une tombe. Il était bloqué. Et maintenant, cette tombe est ouverte. L'ange, porteur de la parole de Dieu, est une réplique de la voix de Dieu désignant le Christ comme son Fils, faisant saisir à Matthieu que nous sommes enfants de Dieu, mais parce que Dieu nous adopte en fait. Comme cette voix qui, au baptême, adopte Jésus, nous déclare enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et puis l'apparence lumineuse et même clignotante de l'ange rappelle le Christ transfiguré de lumière sur la montagne, discutant avec Moïse et Élie. Et Matthieu alors saisit que Christ est la clé de l'interprétation des Écritures et qu'en l'écoutant, c'est la voix de Dieu, voix formidable, que nous entendons. Et maintenant donc, pour Matthieu, Christ sera vraiment celui à qui tout pouvoir a été donné, comme nous le dit Matthieu dans la fin de son évangile. Et il est celui qui l'accompagne chaque jour, sans occasion manquée. Et c'est de cela, finalement, c'est là-dessus que Matthieu termine son évangile. Et cela, oui, cela fait vivre. Mais ensuite, ce n'est plus seulement un ange dont parle Matthieu. C'est plus simplement une expérience mystique qui transforme le désespoir des deux Marie et qui transforme aussi, à leur suite, l'espoir de Matthieu. Mais c'est un Jésus qui est si présent que les femmes peuvent saisir ses pieds Et ça aussi, c'est un détail original à Matthieu. Ce récit parle alors de quelque chose de bien plus matériel, de bien plus corporel qu'une expérience mystique. C'est un Jésus dont on saisit les pieds, dont on saisit la démarche. Un Jésus dont on sent vraiment le corps contre notre corps. Ce corps que nous constituons quand nous courons vers les autres pour partager nos joies et nos craintes, pour partager notre foi, pour partager la réalisation de notre être dans un espoir qui enfin devient concret. Alors c'est ce que font les deux Marie, c'est ce que fait Matthieu quand il écrit son évangile. Et vous aussi, en venant ici, même si c'est pour un instant, mais aussi plus largement dans vos rencontres avec les vôtres, un collègue, un voisin, vos amis, votre famille. C'est quand on va vers les autres pour faire corps ensemble que nous pouvons ainsi saisir les pieds du Christ, sa démarche, et que ce corps devient très concret, tangible. Alors nous entendons ce Jésus nous dire « salut ». Salut familièrement, un peu comme quand quelqu'un rentre dans un bar et dit « salut les amis ». Et donc il y a bien des façons de dire « bonjour » en grec. Et à mon avis, ce « salut » est assez mal traduit. C'est vrai qu'on peut dire en grec, par exemple, pour dire « bonjour », on peut dire « euprate », ce qui souhaite du succès à l'autre, ce qui est sympathique. Ou bien on peut dire « hygiène » pour souhaiter la santé, comme on fait au début de l'année. Mais le salut que Jésus dit, c'est « kairé ». Ce salut dit la joie, une joie qui est déjà réalisée, qui est concrète. La joie d'une relation à Christ qui est solide, qui est tout incarnée. Et cet enthousiasme joyeux qui permet de traverser même la maladie et les échecs. Peut-être c'est pas une joie qui nous permet de rigoler tous les jours, mais en tout cas, en ayant vraiment la puissance d'avancer, comme avec les pieds du Christ, qui est notre chemin. Amen.